Ce jour est dédié pour la réfoua Shlema de Uriel Ephraim ben Dina. Tu es de 6 mois, qui a trouvé une tumeur dans le cerveau, Hachem et Shema. Moi, je reviens rapidement parce que ça ne devient pas possible. Ok. Alors, la question de Elie, d'où vient le stress? D'abord, il faut savoir qu'il y a un bon stress et un mauvais stress. Mon père m'a dit dernièrement, quand il y a des études qui ont été faites actuellement, qu'est-ce qui allonge la vie? Le stress. Bon, un type qui est trop stressé, il finit avec un infarctus, d'accord. Mais disons, une pression dans la vie positive, c'est une chose qui est bien. Alors, Bessin Bachelot, Zatzal va dire aussi en Torah, il fallait de la pression, pas trop. Quand on est stressé au point que ça devient mal à l'aise, on n'est pas bien, ça c'est négatif. Mais on connaît une pression positive, c'est très très bien. Les gens qui sont... il y avait un dicton chez nos frères Ashkenaz, il y a 2 siècles, en yiddish, lent comme un cosaque. C'est très bizarre, parce que les cosaques étaient connus pour leur rapidité, leur efficacité. En fait, les cosaques, ils servaient dans l'armée du tsar pendant 20 ans, puis après, ils recevaient une paye mensuelle. Qu'est-ce qu'ils allaient? Ils allaient au bar, et près du... ils restaient assis comme ça, ils allaient d'un coin à l'autre, comme ça, ça leur prenait une heure de faire 4 mètres. D'une paresse, d'une nonchalance terrible, d'accord. Un cosaque, c'était après les 20 ans de service et de tuerie des juifs, ça devenait des monstres de paresse et un mammouth, d'accord. Donc ça, c'est un stress positif, quelqu'un qui est en vie, plein d'énergie. Alors j'imagine, c'est pas ta question elle est quand le stress négatif et comment le contrer. Un stress négatif provient effectivement d'un manque de bitachon dans Dieu, de manque de confiance en Dieu. Car si on arrivait à intégrer que tout ce qui nous arrive est positif, et que Dieu est là, et nous aide, et ne veut que notre bien, on n'a vraiment pas de quoi se faire de soucis. Mais c'est un degré très très haut.
Même dans les épreuves,
dans les épreuves de tout, Dieu est là partout. Dieu est là partout. Il faut comprendre qu'en fonction de notre proximité, de notre ressentiment, de notre sentiment de proximité d'Hachem, ainsi Hachem est proche de nous, vraiment. Les grands tzadikim, qui ont un grand bitachon, qui sont extrêmement aidés par Hachem à chaque petit mini pas, de quoi ça provient? D'un sentiment de proximité. Quand Hachem, il est proche, il faut comprendre une chose, c'est que Hachem envoie une émission de flux divin dans le monde. Maintenant, nous, en fonction de notre parabole qui recevons ce flux, on est proche d'Hachem ou pas. Hachem n'est pas plus proche d'un homme plutôt que d'un autre. C'est nous, dans notre parabole, notre radar, d'accord, notre outil de réception, s'il est très développé, alors on sent la main d'Hachem partout. La main d'Hachem, elle est là de toute façon. Mais quand on la sent vraiment, alors on agit en fonction et on va jouir d'une aide divine beaucoup plus grande. Celui dont l'outil de réception, il est, comme chez nous, très altéré, alors on se sent éloigné d'Hachem, bien qu'il est proche. Et vu qu'on est éloigné, vu qu'on se sent éloigné, alors on s'éloigne, alors on stresse, on est sans Hachem, alors on ne peut pas jouir du flux que Dieu amène. Alors c'est un grand travail de toute une vie. Oui.
Et par rapport au libre arbitre, il y a une crainte par rapport à ça. On stresse de ne pas être à la hauteur, même si Dieu est avec nous, on a certaines marges de manœuvre.
Tu parles un libre arbitre lorsque tu as un choix entre une avéra et une mitzvah.
Ça ou autre chose, comme il a dit les...
Donc dans le chol, il n'y a pas de libre arbitre. Il y a du libre arbitre que dans quelque chose qui a un impact toraïque. Par exemple, l'autre jour, si maintenant tu vas au bistrot et tu as le choix entre un coca et un jus d'orange, Et tu choisis le jus d'orange parce que tu as plus envie, il n'y a pas de libre arbitre là-dedans. C'est ta nature qui t'a. Alors maintenant, quelqu'un, il a un examen dans les études, d'accord ? Alors d'abord, il y a un stress positif, c'est bien d'être un peu en pression saine, d'accord ? Maintenant, s'il est trop en pression parce que c'est toute sa vie.
Ça me rend malade, des fois.
Voilà, malade toute sa vie, c'est tellement grave, etc. Là, c'est certain qu'on n'est pas à la bonne place. Parce que c'est pas toute notre vie, les examens. C'est que ce ne sont que des examens pour avoir après quoi un petit papier qui te permet de. Tu crois dans ta tête avoir un meilleur métier, etc., une plus belle voiture, une plus belle maison, peut-être même aussi une belle femme, et réussir ta vie. Complètement faux. Donc là, déjà, on est dans le faux.
On a plus de chances d'avoir un beau métier.
Non, on n'a pas plus de chance. On n'a pas plus de chance. On n'a pas plus de chance.
Comment ça, non ?
Mais non, mais non. Mais non, non, il faut comprendre. Il faut comprendre qu'en Occident, on a bâti une façon de penser qui fait que pour réussir ta vie, il faut que tu aies un bon métier. Un bon métier, c'est un métier nécessitant bac plus. Plus il y en a, mieux c'est. Dans la réalité, c'est complètement faux. Les statistiques ont montré que 30% des personnes font un métier dans lequel ils ont fait des études. Donc ils ont fait des études, mais que 30% persistent dans les études. En plus, surtout aujourd'hui, ce n'est pas du tout les études qui font que tu auras un bon métier. Moi, j'ai eu dans mon bureau quelqu'un qui m'a dit « Moi, j'ai fait 10 ans d'études informatiques. Je connais tout sur tout. Je suis top partout. Ben, je quitte Israël, je ne trouve pas de travail. » Alors qu'un plombier qui a fait 6 mois, même pas un plombier, un vendeur de pizza, d'accord, qu'est-ce que j'en sais, un vendeur de n'importe quoi, d'accord, et voilà. J'ai connu des gens qui sont très très fortunés, qui sont des vrais ignares, je ne suis pas le seul, enfin, c'est connu. C'est pas du tout le métier qui donne une bonne part à ça.
Les 3 premières fortunes du monde, ils n'ont pas le bac.
Ils n'ont pas le bac, voilà. Je ne pense pas qu'il y ait un incident santé. D'autant plus, ça c'est au niveau physique, d'accord. Donc, juif religieux, on sait que la parole provient de Dieu, et ce n'est pas ton métier qui va faire que tu seras plus ou moins riche. En plus que la richesse, ce n'est pas seulement combien tu as dans ta banque, c'est combien tu es heureux. Quelqu'un qui a beaucoup en banque, mais il est malheureux et il est pauvre. D'accord, il est pauvre, quoi, ça lui sert tout son argent, hein. Sa femme lui fait comme ça toute la journée. D'accord. Ou, comme disent Chazal, Marbe Nechas, Marbe Daga, celui qui a beaucoup de biens, il a beaucoup d'inquiétudes aussi. Alors, c'est pas une vie. Il y a des gens qui ont. Je connais des gens qui travaillent à 6h du matin, ils sont dans leur bureau, jusqu'à 10h du soir, et voilà, non-stop. De quoi il est heureux? Quand tu vois les zéros de son compte en banque, bon, c'est franchement malheureux. Franchement malheureux. À comment arriver à tout ça? Donc le fait de croire que de mon examen dépend toute ma vie, alors c'est un stress qui n'est pas à sa place. Maintenant, même là, il y a un travail aussi de Emouna, de savoir que ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Donc moi, je fais ma Yishtadlout. Pour la part de ça, c'est que je dois faire ma tentative normale, voilà. Je ne vais pas devenir complètement fou, c'est pas comme ça fonctionne. Je dois faire les efforts comme je dois faire, tu es un bon acteur, je dois faire mon boulot comme je dois faire, puis après, dans les mains de Dieu.
C'est possible.
Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant mieux aussi.
C'est pas le manque de confiance en soi ?
J'ai jamais su ce que c'est, moi, le manque de confiance en soi. J'ai entendu, toute ma vie, j'ai entendu ce refrain, manque de confiance en soi, d'accord. Moi aussi, quand j'étais petit, j'avais un manque de confiance en moi. Et alors, un jour, je me suis dit, bon, alors, c'est qui moi ? Confiance en qui ? Confiance en moi, qui je suis ? Un trou de steak, j'avais pas la barbe à l'époque. Bon, et alors ? Alors c'est qui moi ? Comment faire confiance en Dieu que je ne sais même pas ce que c'est ? En fait, c'est tout à fait. Après, j'ai compris. C'est une formule occidentale. Confiance en moi. C'est-à-dire, t'as rien de plus essave que cela. D'accord ? Moi, moi et moi. Nous, on n'a pas confiance en nous. Pas du tout. On a confiance en Hachem. C'est bien mieux. C'est bien mieux. Goliath, il a confiance en sa force, en son épée, en son. Son armure, ou bien David, il fait ping comme ça, et tout tombe. Et je lui dis, voilà, je viens, moi, toi, tu viens avec ta force, ton épée, moi, je viens au nom de Dieu, d'Israël, que tu as blasphémé.
C'est limite une action, en fait, ce que vous écrivez. La confiance en soi,
bien sûr. L'estime de soi. Bien sûr, j'ai essayé ça. L'estime de soi, c'est différent. Et on doit avoir une image positive de soi-même. Mais comment on peut l'avoir? Comment on peut l'avoir? Et comment pas tomber dans l'orgueil? Bon, c'est très simple, au niveau du discours. Il faut travailler ça, puis c'est très simple aussi au niveau du vécu. Je vais répéter ici, je vais le dire, je répète ici cela souvent, mais c'est important que ça rentre bien dans le crâne. Il y a une Mishnah dans le traité Sanhedrin qui nous dit: pourquoi Dieu a-t-il créé le premier homme unique? Il aurait pu créer 7 milliards de personnes d'un coup, comme il a fait un, de la terre, au lieu de faire un, il en fait 7 milliards. Pour que chacun dise: moi seul vaut la peine que le monde entier soit créé pour moi. C'est une parole de Chazal, c'est pas une parole en l'air. Effectivement, je vaut la peine que le monde entier soit créé rien que pour moi. T'es un peu le monde, combien, qu'est-ce que c'est, 15 milliards d'années-lumière? Le nombre d'animaux, le nombre de bestioles, de bactéries, de mers, de montagnes, d'arbres, tout ça, d'astres, de galaxies, tout ça rien que pour moi, tout seul. Moi tout seul. Alors je suis aimé ou pas? Le type, s'il comprend que tout lui appartient, tout ça est pour lui. Il a maintenant un problème de confiance en soi, d'estime. T'as vu combien je suis aimé, qui je suis? Fantastique. Maintenant, je suis créé. J'ai rien fait pour. Moi-même, en moi-même, qu'est-ce que je peux dire que j'ai une chose? Tout m'est donné, j'ai été créé, même les qualités que j'ai, c'est Dieu qui me les a données. Donc je n'ai pas à m'enorgueillir, je vais rester humble, mais savoir que je suis extrêmement aimé. Moshe Rabbeinu, qui est l'homme le plus grand poète de toute l'histoire de l'humanité, la Torah témoigne qu'il est extrêmement humble. La Torah lui-même, il dit. Et Moshe est l'homme le plus humble qu'il y a sur Terre. Alors, il sait très bien quelles sont ses qualités. Il sait qu'il est presque un ange, d'accord, pouvoir à 40 jours monter avec Hachem, proche de lui, sans manger, sans boire, 3 fois 40 jours. Mais il sait qu'il n'a rien fait pour. Donc il est extrêmement humble. Alors il sait qu'il est aimé, et il sait qu'il est humble. C'est comme ça qu'on doit être. Nous sommes extrêmement aimés, choyés, adorés par Hachem. Surtout quelqu'un qui aura la chance d'être dans la Torah, d'étudier la Torah, pratiquer la Torah, peut s'adresser à Hachem. On dit ado, et puis après naï, mon maître. Mon maître, on est en relation. Mon roi. Si j'ai quelqu'un, hein, tu es le roi des animaux. C'est un compliment. Et ma femme, tu es la reine des animaux. Je suis pas contente. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ça sous-entend, hein, que entre le roi et ses sujets, il y a une relation. Il y a une proximité et une ressemblance. Si on dit l'homme gouverne les animaux, un gouverneur, alors c'est différent. Il gouverne, mais il n'a rien à voir avec eux. Un roi, il y a la relation. Quand on dit maintenant que Dieu est notre roi, c'est qu'on est en relation avec lui, très très proche, de ressemblance. Quelqu'un il pense à ça, il a un problème dans la vie après. Il s'est travaillé pour toi. Qui lui a donné maintenant les pulsions de travail, la neshama qui le poussait à cela, la force, tout ça?
Il aurait pu ne pas le faire.
Il avait le choix de ne pas le faire. Alors on a un mérite. Bon, on a un mérite que dans les choix, on a pris. Mais comment on t'a aidé? Et toutes les qualités qu'on a eues. Hachem nous donne un cadeau. Qui dit, tu vas faire ça, tu as fait l'effort, je considère comme si c'est toi qui as tout fait. Mais il a fait une grande partie. Il a mis devant le choix, il a donné les outils pour réussir. C'est vrai, on ne peut pas dire que nous sommes des robots. On n'a pas rien, on n'a pas de quoi s'enorgueillir. Voilà. C'est écrit dans la Gemara, traité Yoma, je me souviens bien, c'est écrit qu'on ne met à la tête du public qu'une personne qui a une caisse de shratzim, d'animaux impurs, de bestioles derrière lui. Ça veut dire un tas de problèmes. Shaoul, le premier roi l'histoire d'Israël, c'est marqué pourquoi sa royauté a duré 2 ans, sa royauté, pourquoi elle n'a pas duré. Parce qu'il n'avait pas eu une caisse de bestioles impures. Tout allait bien. Lui était sadique, son père sadique, son grand-père sadique, tout le monde était très bien. Mon cher Rabbeinu, son père s'est marié avec sa tante. C'est son karet. En Baruch HaShem, il s'est marié avant que la Torah soit donnée. Mais si un jour, mon cher Rabbeinu, il vient et dit, moi je suis quelqu'un, moi mon cher ami, t'as de la chance que la Torah t'ait donnée après que ton père s'est marié avec ta tante. Sinon, t'aurais été un mamzer. Un bâtard. Bon, alors il se rabaisse un peu comme ça. On dit que Korach, c'était donc le... C'est fait une révolte contre Moshe Rabbeinu. Ben, je pose la question, qu'est-ce qui lui a fait cette idiotie, cette bêtise? Jusqu'à aujourd'hui, Korach, il est en enfer. Jusqu'à aujourd'hui, à la fin des temps, c'est marqué, Rabbeinu Ari dit que Tzadik Katamar Ifrach, sauf et vote Korach. Tzadik Kouf, Katamar Resh, Ifrach, Chet, c'est les lettres du mot Korach. Il sera un tzadik qui va monter comme un palmier. C'est un tzadik, c'était un homme énorme, Korach. Mais il a fait une bêtise. Il a fait un putsch militaire, enfin un putsch contre une révolte, contre une révolution, contre Moshe Rabbeinu et Aaron. Rachid dit, ma ra'a le shtutzo. Qu'est-ce qu'il a vu pour faire une bêtise pareille? Il a vu que de lui sortait Shmuel. Shmuel a un avis. Shmuel qui équivaut à Moshe et Aaron les deux réunis. Il s'est dit, de moi va sortir un homme pareil. Je restais un nul de côté. Mais on lui a dit, mais tu sais bien qu'il y a une loi qui dit que pour être un grand, il faut avoir derrière soi une caisse pleine de bestioles impures. Il dit, cette loi, elle est fausse. Preuve en est que regardez, Shmuel, il est aussi grand que Moshe et Aaron, et on regarde toute son ascendance, c'est tous les gens sadiqués. Elle a compris que c'était lui, la caisse de bestioles impures. Comment je suis arrivé à tout ça? Donc voilà, Moshe Rabbeinu, David Améler. D'où il vient? Outa Moabit, qui vient de Lot avec sa fille, Tamar, prostituée sur la route avec son beau-père. C'est pas la joie. Alors, Baruch HaShem, sa royauté a duré 40 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, la descendance du roi David. Donc, on ne peut pas aller et commencer à croire que nous sommes quelqu'un, s'enorgueillir. Nous, aujourd'hui, tout ça, ni David, ni rien, qu'est-ce que tu as? De là, tu es tordu, de là, tu es tordu, là, toute ta vie est tordue de A à Z. Donc, on peut chacun être ma chère, Bézrat Hachem. D'accord? On peut chacun être roi d'Israël, on n'a aucun problème.
Je ne comprends pas, juste. Il faut être le plus anav possible.
Oui.
Mais.
Plus impossible, oui.
D'accord, mais quand on fait notre Avodat Hachem? Quand vous faites ce que vous faites et quand un type fait son métier, c'est qu'il a confiance en lui, c'est que ça lui plaît, c'est qu'il réalise qu'il a envie.
Il a confiance en Dieu. Et remercie à Dieu que chaque moment il lui a permis de faire quelque chose. C'est grâce à Dieu. Merci que tu m'as permis de faire cette mitzvah-là, tu m'as donné les forces de faire cette mitzvah-là, tu m'as donné une neshama qui me permet d'avoir une envie de faire cela. Je te remercie beaucoup.
Quand il fait ce qu'il fait, au final, il est fier, il est content de ce qu'il fait. Donc, quelque part, il y a une part en lui qui dit, c'est bien.
Il est fier, oui, c'est bien. C'est bien, Hachem est content. Hachem est content. Hachem est content. C'est bien, Hachem est content.
Il y a une part de gava,
au final. Ouais, c'est pas le gava. Je suis content qu'Hachem soit content. Je suis content de faire des choses bien.
On ne fait pas tous les choses
par les gens. Gava, c'est dire, j'ai répété, Moshe Rabbeinu, ce n'est pas un idiot. Il sait maintenant que c'est lui qui amène la Torah dans le monde. Ce n'est pas un idiot, il sait bien ce qu'il fait, d'accord? Alors, il voit un autre maintenant qui est balayeur dans la rue. Moi, je suis quelqu'un, toi, t'es un nul? Non, parce que je sais exactement que ce que je fais, c'est parce que Dieu m'a donné une neshama spéciale, grande. Et peut-être tu fais mieux ton boulot que moi, je fais le mien. Tout ce que j'ai fait, Baruch HaShem, je pense que j'ai fait bien, j'essaie de faire bien. Mais ce n'est pas grâce à moi. La partie qu'il y a de moi, elle existe. J'ai un petit libre arbitre qui a fait que... Mais ce n'est pas grand-chose. Pas grand-chose. J'ai été beaucoup aidé par Hachem.
On
ne
peut pas avancer sans gava, ça que je veux vous dire. Un minimum de...
Un minimum, ce n'est pas la gava, ce n'est pas de l'orgueil. Comment on a commencé à parler? Qu'est-ce que estime? C'est de l'estime. Il y a l'estime et et l'orgueil. C'est deux choses différentes. L'estime, je sais ce que je vaux. Il n'y a pas meilleur que moi dans le monde. Mon cher Rabbeinu, je suis l'homme le plus humble sur Terre. Ah, il sait qui il est. Il raconte toute la Torah, c'est quoi la Torah de Moshe? Il raconte comment il est monté au Mont Sinaï, tout ça, il sait bien qui il est. Donc il a une estime de lui, il sait exactement ce qu'il est. Mais il sait qu'il n'a rien fait pour. Ou pas grand-chose. Hachem l'a beaucoup aidé, Hachem l'aime. Si je sais que Hachem, même si besoin de me dire maintenant t'es quelqu'un de bien, t'as fait ça, sans que j'ai fait ça, c'est Dieu qui m'a aidé. Mais Hachem, il m'aime, il m'adore. Alors ça suffit. Besoin de plus. Besoin de plus. Alors pour l'examen qui nous stresse, si on sait qu'on est aimé par Hachem, d'abord on verra la main de Dieu beaucoup plus, il va vraiment nous aider beaucoup plus. Et puis on sait maintenant que j'ai l'examen ou pas, que ça change. Je dois faire maintenant une tête doute. Je dois faire ce que je, si c'est ça ma voie, je dois faire ce que je dois faire bien. Si je réussis, ben, ça veut dire qu'Hachem voulait que je réussisse. Sinon, ben, Hachem voulait que je ne réussisse pas. Merci Hachem pour tout. Je me fais du souci. On n'a pas de souci à se faire. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, il faut beaucoup de travail.
Mais
l'ishtadlut,
c'est pas d'aller à l'examen, c'est de préparer l'examen.
Oh, si, mais bien sûr, préparer. Préparer bien. Des fois, je dis, il faut faire une bonne ishtadlut. On va faire un truc normal. Ben, je vous dis une comédie, comme si Dieu n'était pas là. Alors, je joue la comédie, mais je dois la jouer bien, je dois être un bon acteur. Quelqu'un, il est malade, il doit aller voir un bon médecin. On a engarguisé, mais on doit avoir une bonne armée. Mais savoir, tout ça, c'est une comédie. On joue parce que Hachem a voulu qu'il y ait des miracles trop ostensibles. On la joue bien, mais on sait, c'est rien qu'une comédie. C'est Hachem qui gère tout. C'est beaucoup plus facile. Là, plus besoin de stresser. Je fais mon job. Si je pense que c'est moi qui fais, c'est moi qui ça répond, ça c'est orgueilleux. Et vu que là, ben, je ne maîtrise plus, parce que j'arrive pas, je ne suis pas certain, je me mets à stresser. Non, tu ne maîtrises rien, tu vas faire ton boulot, et le reste dans les mains d'Hachem. Shlach yavra el Hachem v'echel chalecha. C'est marqué dans les Télim 37. Envoie ta charge. T'as une charge, d'accord? Elle est lourde. Envoie la Hachem et il s'occupera. À lui de porter. Tu voulais dire? C'est bon?
Ah. Tiens, je n'avais pas de remercier Hachem, etc. Et ça me pense que Hachem qui. Des fois, ils sont fermés une heure et demie dans la chambre pour. Je sais pas où, je sais pas quoi, il est tout seul dans une forêt, vous avez dit un jour pour remercier Hachem ou pour dire ça c'est ton tombeau, etc. Mais est-ce que ça ne s'appelle pas pour quelqu'un d'une telle ampleur dans Israël, ça ne s'appelle pas du tout le Torah, ça? Je me pose cette question. Je veux dire, on peut faire ça, mais.
Et si le feu, c'est vrai que c'est pas du but du Torah, ça fait partie. La Torah, il faut aussi la réaliser. La Torah, il faut aussi la réaliser. La Torah me demande maintenant d'être reconnaissant à Hachem, de prier à Hachem. La prière que nous avons tous les jours, c'est une Moussa des Rabbanan. On prie, quelqu'un qui prie bien, il prie bien 2 heures par jour. Et bien tout le Torah, hein. L'étude de Torah, chaque mot vaut 613 mitzvot de la Torah. Alors, pourquoi on prie? T'arrêtes de. C'est dommage. Tu pourrais gagner beaucoup plus de Torah, c'est une mitzvot beaucoup plus grande. La Gemara, elle dit Zman Tfila Lechoud, Zman Torah Lechoud. Il y a un temps spécial pour l'étude de Torah, il y a un temps spécial pour la prière. Il faut les deux. Rien, l'un n'empiète pas sur l'autre. On doit faire ce qu'on doit faire. Quand tu vas te marier, toi aussi, tu ne vas pas dire à ta femme Bitul Torah toute la journée, elle ne te verra pas, elle se marie avec un stander, d'accord? Avec une mariée, elle se marie. Non. Elle veut un mari. Encore Bitul Torah? Non. Elle veut ça de se marier, créer un foyer, une union, parler. Et pas de ta gmara avec ta femme. Je ne sais pas. Pas des beaux-parents, ni des parents.
Vous avez différencié estime de soi et orgueil.
Absolument.
Et l'estime de soi amène à l'orgueil quelque part. Puisque
non.
Estimer, savoir réaliser la chose qu'on a.
Non, pas... savoir qu'on a de la valeur. Mais savoir que cette valeur, elle n'est pas grâce à moi. Je vais donner un exemple, tu vas très bien comprendre. Prends-moi, je ne sais pas moi, le lion. Bon, je ne sais pas si le lion, c'est un exemple, un animal qui est puissant, d'accord? On va dire l'aigle. Ok, c'est l'animal qui est le volatile qui vole le plus haut. Maintenant, lui va commencer à dire je suis orgueilleux, je suis quelqu'un. Crétin fini, on t'a créé comme ça, t'as rien fait pour. Ah, je suis un moineau? Non, t'es un aigle. T'es le roi des volatiles. Tu es très haut, t'es le plus fort, le plus grand, etc. Mais t'as rien fait pour. On t'a créé comme ça.
Il peut très bien profiter,
qui profite à fond, il n'y a aucun problème. Il sait très bien que c'est un aigle. Il ne veut pas dire maintenant, je suis maintenant, grâce à moi, je suis un aigle. Qui t'a créé aigle? Hachem. De quoi tu te vantes? T'as pas eu de quoi te vanter.
Et encore une autre question, vous avez parlé qu'il n'y a pas de confiance en soi, la notion de confiance en soi c'est une notion occidentale.
Ouais.
Donc on ne peut pas parler de confiance en soi au final.
Ouais. Confiance en la chèvre, ça marche beaucoup mieux. Parce que qui suis-je moi pour avoir confiance en moi? Je ne suis pas dans ce que je vais vivre. Qu'est-ce que nous sommes, nous?
Mais quand on se regarde.
Un morceau de poussière, de rien.
Ouais, mais quand on se regarde, il y a une personne, certes, il y a HM au fond de nous, mais c'est nous qui agissons avec l'aide d'HM, ok. Et ça veut dire que c'est nous d'abord. Enfin, c'est nous d'abord. Non.
Si tu as confiance en HM, ça veut dire que tu sais qu'HM va t'aimer, tu auras de l'estime. Tu auras ce que tu appelles la confiance en soi. Le but de confiance en soi, c'est être bien dans sa peau, c'est ça que ça veut dire, d'accord? Et bien, pas être complexé, croire qu'on est nul, etc., et être inhibé, et rien oser, pas parler en public, rien faire dans sa vie. D'accord? C'est ça que tu veux dire, avoir confiance en soi. C'est que je suis quelqu'un bien dans ma peau. Ça ne viendra pas en faisant une thérapie d'investigation sur mon être, qui suis-je, d'accord, dans mes méandres de mon âme. Tu n'arriveras à rien. Tu n'arriveras à rien parce que tu sais pas, on ne peut pas arriver à là-bas. On sait pas ce qu'on, nous ne savons pas ce que nous sommes. Par contre, tu peux arriver à un très grand bien-être en sachant qu'Hachem t'aime, t'estime beaucoup. Il a créé tout le monde rien que pour toi. Si j'arrive à me convaincre de cela, ce qui est la réalité, j'ai ce que tu appelles la confiance en soi, mais ce n'est pas une confiance en moi. Moi, que je sais qu'Hachem m'aime, alors je sais que je suis un type bien, c'est tout, voilà. Confiance en moi. Confiance en Hachem.
Mais alors, on dit ça, bah, tu vois, qu'Hachem il t'aime et qu'Hachem il... Voilà.
Ouais.
Et tu dis, bah, ok. Il va te dire qu'est-ce que vous voulez qu'il vous réponde. Il vient de commencer la religion, on lui dit qu'Hachem il aime, ouais. Ça ne va pas lui changer sa vie, lui.
S'il le sait,
dans le concret.
S'il le sait, si je lui dis, ça rentre par là, ok, ouais, ok, très bien, t'es sympa. D'accord, mais ce que je dis, c'est la théorie. Attends, il y a beaucoup d'années de travail pour intégrer cela. Se le redire, se le répéter, il faut faire beaucoup d'autres. Beaucoup des choses que tout ce que nous disons, nous disons ici, c'est des choses qu'il faut intégrer. Comment on intègre? En se le répétant beaucoup. Ça rentre au bout d'un moment. Quelqu'un qui sera convaincu vraiment qu'Hachem l'aime et que pour lui, il valait la peine que le monde soit créé, où est son problème? Il va stresser pour une chose au monde. Il peut stresser pour une chose au monde. Même si j'ai un accident à 200 km à l'heure dans le pare-brise, d'accord, Hachem m'aime. Non, dans toi, oui, tout ira très bien.
Des fois, pour avoir la confiance en soi.
Tout ça est théorique, parce que c'est très dur, mais c'est clair qu'une personne qui a ce niveau-là, aucun problème.
Il faut avoir la confiance en soi, enfin, être sûr de ce qu'on fait, il faut quand même se poser des questions.
Bien sûr.
Tant qu'on n'a pas répondu à ces questions, on ne peut pas avoir confiance en soi.
J'ai pas compris, de quelle question tu parles?
S'il n'y a pas de confiance en soi, il y a un mal-être quelque part,
oui.
Quelque chose qu'on maîtrise pas.
Oui.
Donc, ce qu'on maîtrise pas, si on touche à ces questions ou à ces problèmes ou à ce mal-être.
Donne-moi un exemple. Quelqu'un, il ne sait pas quoi faire dans la vie?
Je sais pas, moi, c'est en mode.
Dentaire ou finance?
Quand j'étais au collège, on disait t'as pas confiance en toi. Et on disait à tout le monde.
Ouais.
Que quelque part, quand on n'a pas confiance en soi, il y a quelque chose qui manque à l'individu. Il y a une part qui
ne va pas être construite. Tu pensais que par rapport à d'autres personnes, parce qu'on toujours se compare avec les autres, ils sont tellement bêtes, d'accord, mais on se compare, c'est comme ça, c'est naturel dans les niveaux bas que dans lesquels nous sommes. Alors, je vois que lui réussit plus que moi dans ça, et lui plus que moi, et moi je réussis pas. Mais moi je réussis pas. Une mauvaise note, qu'est-ce que j'en sais, moi, d'accord, je ne plais pas, tout ce que tu veux, d'accord, je suis pas bon dans la société, je suis pas quelqu'un. Adulé, respecté, mais d'accord, je suis de côté, raté dans tout. Ok? Maintenant, ce type-là qui est raté dans tout, s'il sait, pas on lui a dit, il sait que le monde entier valait la peine d'être créé pour lui et que Hachem l'aime beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Que Gustave lui fait un sourire ou pas? Qu'il y a une bonne. Maintenant, la maîtresse lui a donné une mauvaise note. Qui est la maîtresse, qui c'est Gustave? Qu'est-ce qu'on a à faire de ça? Tu comprends avec qui je suis, où je suis? Prends le roi David. Le roi David, il a été considéré par ses frères et son père comme un bâtard. Le fruit de l'union interdite de sa mère avec un homme inconnu. Et son père, ses frères l'envoyaient paître dans un endroit dangereux qu'il se fait bouffer, dévorer par un lion, par un ours, tout ça. Et on regarde de côté. Évidemment, vu qu'il est mis de côté dans le village, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Isha, c'est un des quatre hommes qui n'a jamais fait aucun péché. C'est un grand sadique. Pourquoi il met son fils comme ça de côté? Certainement, il y a un problème avec lui. Ah, ça, il n'est pas net ce David. T'as un vélo qui a disparu dans le village. Qui c'est? Bah, c'est David, évidemment. On accuse de tout. Et lui, il ne répond même pas. Il ne répond pas. Je dis Kakodad, mais quelqu'un qui ne répond pas, c'est certainement lui. Et tout le monde part sur lui toute la journée sans cesse. Jusqu'à l'âge de 28 ans. Vous connaissez l'histoire? Vient Shmuel, Dieu lui a dit, va sacrer le fils de Ishaï, roi d'Israël. Les 7 premiers passent. Chaque fois, Shmuel se lève, ah, c'est lui le roi d'Israël. Et, assieds-toi. À la fin, il demande à Ishaï, c'est fini, il n'y a plus? Tout son passé, c'est vrai? Dieu m'a envoyé maintenant sacrer ton fils au roi d'Israël. C'est tout? Et là, Ishaï comprend que David, c'est peut-être son fils. Il amène, il lui dit, t'es assis, lève-toi tout de suite, bam! Alors, comment il a fait comme ça, 28 ans? Pendant ce temps, il a écrit Tehilim. Tu lis Tehilim, je suis poursuivi, on m'a fait des choses que je n'ai pas fait, j'ai été mouzarbeïna, bébé, aux yeux de mes frères, je suis comme un tordu. Il va doit être Tehilim sans cesse. Et c'est lui qu'Hachem choisit pour être Meshiach Hachem, pour être le Messie de Dieu, le roi d'Israël. Lui, il est descendu jusqu'au Mashiach, descendu du roi David. Alors, comment il a vécu ses 28 ans? Personne ne l'aime. Alors quoi? Il a les pleurs dans son coin? Ah, je suis avec Hachem, Hachem lui-même. Hachem lui-même. Du moment qu'on a intégré ça, il n'y a plus aucun problème dans la vie. Et Hachem aide. Comme ça, Hachem, il a envoyé 60 anges autour de David qui le protège sans cesse. 60, je dis un chiffre, parce qu'avant d'aller dormir, on dit qu'il y a 60 anges qui viennent nous. On demande que 60 héros de Shlomo qui viennent nous protéger. D'accord? Il était protégé, la Shrina. Il devient véhicule de la Shrina, véhicule de Dieu. Alors nous tous, on est véhicules de Dieu, moindre. Mais si on va comprendre qu'on est vraiment des vrais véhicules de Dieu, alors Hachem vient et se pose. Oui.
Dans l'épreuve, est-ce qu'on peut dire que Hachem, il nous aide moins pour nous laisser plus se dévoiler tout seul et grandir?
Tu ne connais pas l'histoire. Un type va au bord de la plage. Et Hachem est avec lui. Le tient par la main. Et le vent comme ça. Puis de temps en temps, le type il se retourne, puis il voit les traces d'Hachem sur la plage et de lui. Puis avant, ça ne va plus du tout. Ça, la galère. La galère. Il se retourne, il voit plus qu'une seule. Une seule trace, pas deux. Il dit Hachem, c'est maintenant que tu me lâches. Maintenant que tous tes problèmes, c'est maintenant que tu me lâches. Je me dis, mais t'as pas compris. C'est mes traces à moi. Moi je t'ai pris, maintenant tu es dans mes bras. Il n'y a plus de traces. C'est rien que les miennes. C'est la réalité. C'est exactement comme ça.
Donc en fait, dans l'épreuve, il nous aide encore plus.
Bien sûr. Simplement, vu que c'est une épreuve, alors on le voit moins. Il cache sa face, mais il est là. Regardez Israël avant de passer la mer Rouge. Hachem leur a fait des miracles extraordinaires en Égypte pendant un an. Chaque mois, un nouveau miracle, etc., les 10 plaies, etc., ils ont vu comment Dieu les aime. Ils amènent maintenant au bord de la mer, on ne peut pas passer, tout d'un coup on voit l'armée égyptienne qui arrive. L'univers concentrationnaire égyptien qui les rattrape. Le texte dit, « Vaïr Oumer, ils ont été terrorisés. » Terrorisés ! Et ils disent, « Moi, je sais quoi, je ne comprends pas, il manquait des tombes en Égypte, on amène ici mourir au bord de la plage. » Yam Souf Beach. Il crie à Hachem. À ce moment, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un des plus grands actes d'amour pour le peuple d'Israël durant l'histoire. Il ouvre la mer pour Israël, pour engloutir ses ennemis. Alors nous, on a l'impression qu'on est en pleine épreuve, il n'est pas là, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends, il manquait des tambours là-bas. Hein, en pleine crise. Et Hachem est tout proche de toi, mais je te regarde ce que je te prépare maintenant. Ça, je vous mets au parfum pour Gog ou Magog. Exactement le même topo. Ils vont venir ici à Jérusalem. Ils se réunissent le 25 janvier, tous les pays, là, pour voir. Qu'est-ce qu'on fait avec la Syrie? Tous les États du monde, ils se réunissent maintenant pour la Syrie. La Syrie, c'est à 10 mètres de chez nous, d'accord? Frontière. Tous les pays du monde, voilà. Ça sent quelque chose, là. Après, ils vont dire non, en fait, ça c'est réglé. Maintenant, tout ce qu'on a fait là, allez, libérer Jérusalem, ça, on en finit avec ça. Il y aura un petit truc qu'il va faire que. Et ils viennent tous ici. En Israël. Et là, ils viennent par le nord, t'es en première ligne. À 100 mètres ici, c'est fini la frontière de Jordan. Alors, ils viennent là, d'accord. C'est par là qu'ils viennent. Et où Hachem ? Qui ? Quoi ? Et lui, maintenant, Hachem, il est là, il prépare. C'est la Géoula. C'est la Géoula qui est. Machar, voilà, il vient, ça, il va se dévoiler. Un accouchement. C'est comme un accouchement. La traversée de la mer Rouge, d'après Chazal, c'est un accouchement. Et ma chère redevient associée. On parle de douleur d'accouchement du Messie. La femme, elle hurle, lui, elle hurle. Et pour finir, le bébé, il sort. Et c'est un des plus grands cadeaux qu'Hachem puisse faire à une femme, à un couple, dans la vie. Baruch Adonai, l'homme va amener.